Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Et donc bienvenue comme chaque mardi à partir de 14h30 sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour cette 12e émission de Sortir du capitalisme, spécialement consacrée au mouvement d'opposition, au projet de loi travail et aux luttes afférentes. Vous pourrez dans quelques jours retrouver l'intégralité de cette émission sur media.radio-libertaire.org et sortirducapitalisme.fr. La semaine prochaine, donc mardi 13h30, nous recevrons deux membres du collectif Légiménologue pour une émission d'histoire de la révolution libertaire d'Aragon et de Catalogne de 1936 autour de leurs deux ouvrages Zaragoza o al Charco, qui sort ces jours-ci aux éditions L'Insomniac, et Les Fils de la Nuit, donc c'est une réédition Libertalia qui sort dans quelques semaines. Et donc à l'occasion de leur parution conjointe et du 80e anniversaire de la plus grande révolution que l'histoire ait vu commencer jusqu'à ce jour, selon Guy Debord. Ni loi ni travail, le travail est en crise, qu'il crève, fin du travail, vie magique, autant de slogans révélateurs d'une critique radicale du travail marchandise portée en germe par une partie du mouvement d'opposition au projet de loi travail qui a commencé donc en mars. Nous avons déjà évoqué au cours de précédentes émissions l'impérieuse nécessité d'une critique radicale du travail marchandise ainsi que son dépassement émancipateur. Travail marchandise que nous avions défini comme vente forcée, sous peine de misère sociale, de son temps d'existence, 35 heures hebdomadaires au moins, de sa capacité productive, de sa force laborieuse comme marchandise, productrice de marchandises et de survaleur. Pour discuter avec nous du mouvement d'opposition au projet de loi travail, de ses perspectives radicales de lutte et d'une éventuelle émancipation communisatrice du travail marchandise et du capitalisme, nous sommes avec Léon de Matisse, auteur de Crise aux éditions Entremonde que nous vous recommandons vivement, et de plusieurs articles brochures dont Qu'est-ce que la communisation dans SIC 1 et un autre article dont qui va largement résumer les mesures communistes. Alors bonjour Léon.
Bonjour.
Donc par rapport à ce mouvement, on va partir de l'actualité de ce mouvement d'opposition. Qu'est-ce qu'on peut en dire
Moi, en fait, avant de parler même du mouvement actuel, j'aurais juste posé un peu un cadre sur comment, en mon sens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans un mouvement social ou dans une lutte particulière, un moment de lutte, une période de lutte comme celle qu'on connaît actuellement. Moi, j'ai toujours pensé que ce qui était fondamental d'essayer de trouver, c'est ce qui, dans le cadre de cette lutte, ne reconduit pas le rapport entre les classes ou les rapports sociaux en général, mais a plutôt tendance à les remettre en cause d'une manière ou d'une autre. Et quand je parle de ça, il est entendu que, par exemple, les rapports entre travailleurs et capitalistes médiés par les syndicats, c'est une reconduction du rapport de classe et non pas sa contestation. Donc en fait, il faut prendre le truc vraiment au sens large, c'est-à-dire finalement tout ce qui, dans le cours ordinaire du capitalisme, est l'existence même de ce rapport social dans toutes ses formes juridiques, ses formes, donc effectivement de médiation sociale comme les syndicats ou voire les, parce que ça a commencé à exister maintenant, l'auto-organisation qui n'est pas formellement syndicale, mais qui a un contenu finalement très très syndical, et toutes ces choses-là. Donc ce que je trouve moins intéressant, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que on commence à en sortir ou pas. Quels sont les moments du mouvement lui-même dans lesquels il y a une remise en cause de ça. Et on va réfléchir ensemble concernant la loi travail, enfin le mouvement contre la loi travail, parce que pour le moment j'ai pas spécialement essayé de voir plus que toi peut-être ce qui dans ce mouvement-là précisément pouvait répondre à cette interrogation.
Oui, alors c'est vrai que il y a eu effectivement un mouvement très classique de contestation de la loi travail porté par la CGT, par FO, par Sud et par d'autres organisations politiques et syndicales, notamment à un moment l'UNEF, ce qui montre un petit peu la crédibilité de et effectivement qui est unie derrière le seul mot d'ordre retrait de la loi travail Donc effectivement, c'est pas une cogestion de la réforme, mais c'est pas du tout une remise en cause en tout cas du fait que cette réforme n'est que d'ultime aboutissement des restructurations nécessaires à la poursuite du capitalisme. Voilà.
Alors, ceci dit, les mouvements commencent toujours comme ça. C'est-à-dire, ils commencent toujours, évidemment, avec une revendication spécifique, précise, et qui, en tant que revendication, en tant que telle, va pas plus loin que la reproduction du rapport de classe. Je dis ça pour que ça soit bien clair. La manière dont moi j'envisage la lutte de classe, c'est toujours une manière ambivalente ou double, en quelque sorte. C'est qu'à la fois, les classes sociales sont le produit du capital. Évidemment, il n'existe prolétariat et classe capitaliste que parce qu'il y a du capitalisme. Et donc leur existence conjointe et même leur lutte en quelque sorte est d'une certaine manière la reconduction de ce rapport. Et en même temps, à l'intérieur de ce rapport, il existe aussi quelque chose, bon ça c'est une analyse théorique, un point de vue théorique qui nous le dit, mais enfin, il peut exister quelque chose qui est aussi remise en cause de ce rapport et caducité de ce rapport. Et donc l'idée à chaque fois qu'on envisage justement un mouvement comme ça, c'est qu'est-ce qui dans ce type de mouvement, de lutte, de contestation, qu'est-ce qui est reconduction du rapport et qu'est-ce qui est remise en cause du rapport. Et parfois, ces deux aspects coexiste, j'allais dire presque de manière très proche, c'est-à-dire que un élément qui est bien évidemment créé par ce rapport et donc en un sens reconduction du rapport est aussi éventuellement quelque chose qui contient déjà soit en germe soit de manière un peu plus explicite la possibilité de sa remise en cause. Alors pour ce qui est du point de départ, les mouvements qu'on a connus, qu'on connaît de manière générale depuis fort longtemps, ils commencent tous, évidemment, de manière extrêmement classique, par une mise en mouvement qui est une mise en mouvement syndicale. Et même, je dirais, avec beaucoup d'arrière-pensée politicienne, hein, parce que, bien sûr, à chaque fois, c'est un contexte politique, politicien, des rapports internes aux organisations syndicales, des rapports entre les organisations syndicales, enfin, vous dire, tous ces éléments-là existent, et même s'ils sont bien évidemment pas l'essentiel, on peut pas les ignorer non plus. Et donc, au point de départ, il y a toujours ces différents éléments, et ensuite, bien entendu, l'entrée dans la lutte d'un certain nombre de gens, de personnes qui contestent donc la réforme, puisque c'est ça en fait fondamentalement depuis quand même un certain temps, qui a motivé les mouvements sociaux larges, hein, sur des luttes plus particulières ou plus restreintes, ça peut être plein d'autres éléments, mais en règle générale, quand on parle de mouvements larges et nationaux comme celui qu'on connaît en ce moment, c'est souvent donc le refus d'une réforme. Et donc, bien évidemment, le point de départ, il est tout à fait classique. Et il est tout à fait dans la reconduction du rapport social. Il s'agit simplement là, même si c'est quelque chose qui est important, hein, évidemment, mais il s'agit bien entendu de refuser une étape supplémentaire dans le démantèlement des acquis sociaux des travailleurs, etc., etc. On est bien d'accord là-dessus. Donc, le point de départ est on ne peut plus classique. Mais les autres mouvements aussi, enfin je veux dire, le 2006 c'était le retrait du projet CPE, 2010 c'était la réforme du travail, et si on remonte encore avant, il y a peut-être le mouvement des chômeurs, alors on remonte loin, de 1998, 97-98, l'hiver 97-98, qui portait sur une revendication un peu particulière, puisqu'il demandait, là pour le coup, qu'on accorde une prime de Noël, hein, qu'on maintienne une prime de Noël pour les chômeurs, voilà, bon. Et c'était sur la question des rémunérations des chômeurs. Mais en tout cas, le point de départ, il est toujours ancré effectivement dans ce qu'on pourrait appeler la reconduction du rapport social, l'existence des classes, l'existence mutuelle des classes, qui n'existe que parce qu'il y a un système capitaliste qui les constitue, d'une certaine manière.
Et du coup, qu'est-ce que tu penses de toute cette de toute une fraction du mouvement qui a été de plus en plus active et même de plus en plus nombreuse, qui constitue de son propre aveu des débordements par rapport justement à ce mouvement classique, qui porte des slogans plus radicaux comme ni loi ni travail particulièrement. Qu'est-ce que tu penses du coup de toute cette composante qui s'est développée et qui a pris une importance cruciale, puisque on en parle beaucoup dans les médias, qu'on classe sous le terme de casseur, etc.
Alors moi, ce que je trouve là, mais je dis ça vraiment de manière pas du tout plus argumentée que ça, c'est vraiment une impression. Et ce que je trouve, moi, c'est que peut-être un peu contrairement à ce que tu as dit, il n'y a pas eu grand-chose finalement, me semble-t-il, dans ce mouvement de réflexion sur le travail lui-même. Et justement, si je devais comparer avec, je viens d'en parler, avec le mouvement des chômeurs de 1998, où là, il y a eu une composante du mouvement, mais qui n'était pas une composante négligeable du tout, qui a écrit énormément de textes de critique du travail. Et c'était un mouvement de chômeurs, donc c'est assez intéressant parce que, justement, c'était dans la perspective de ce qui est toujours la réalité maintenant, c'est-à-dire du fait que de plus en plus de gens, de toute façon, n'ont pas accès au travail. Hein. Ils ont accès à des modes de rémunération qui sont par exemple les ACEDIC ou le RSA, ou à l'époque c'était le RMI, ou choses comme ça, donc ils sont des rémunérations sociales, une forme d'achat global de la force de travail, mais pas un emploi rémunéré salarié. Et donc, dans le cadre de ce mouvement-là, il y a eu une éclosion de pratiques et de textes très nettement dirigés contre le travail, de critique du travail capitaliste, du travail salarial, évidemment. Et là, il y a effectivement le slogan « Ni loi ni travail » qui est très bien. Il y a quelques éléments comme ça, mais je trouve que c'est pas l'essentiel. Et en fait, la frange la plus radicale, comme tu dis, finalement, elle, je crois qu'elle dit de manière, à mon avis, assez explicite, que le mouvement contre la loi travail n'est qu'un prétexte pour exprimer quelque chose de plus global, qui n'est pas forcément formulé en plus. Et c'est dans ce contexte-là, par exemple, que j'ai l'impression que Nuit Debout existe. C'est-à-dire Nuit Debout, qui est donc ces rassemblements comme celui de la Place de la République, n'existerait pas s'il n'y avait pas un contexte de lutte. Un contexte de lutte générale contre une loi, avec des journées de mobilisation syndicale comme celle qu'on a connue jeudi dernier et celle d'avant, et ou encore même celle du 1er mai, qui a été un prétexte également pour reprendre cette lutte là et je pense que mais ce qui est par exemple Nuit Debout, je crois assez officiellement au départ, a dit on n'a pas de revendication spéciale, on occupe la place, mais c'est pas dit pourquoi on occupe la place particulièrement. Et j'ai l'impression que toute la frange radicale dont tu parles, assez clairement, a dit que finalement le mouvement de contestation contre la loi travail, la revendication du retrait de la loi travail, c'est pas le problème. On dit assez visiblement, au fond, ce qui compte, c'est un ras-le-bol généralisé et un refus généralisé. De quoi? Alors voilà, de toutes les conditions sociales peut-être, en tout cas de l'existence du monde tel qu'il est, du capitalisme tel qu'il fonctionne. Et c'est ça finalement qui est un peu la caractéristique de ce mouvement. En même temps, cette frange radicale, elle est importante numériquement, mais c'est bel et bien une frange là-dessus. Ça me semble assez évident.
Oui, et c'est vrai que peut-être que le ras-le-bol effectivement de la loi travail et de son monde, pour reprendre une expression qui a souvent été employée, peut-être qu'effectivement, ce ras-le-bol généralisé n'a pas encore produit, ou en tout cas pas, peut-être moins que effectivement le mouvement de chômeurs de 98 ou même mai 68, une réflexion peut-être plus poussée sur la critique du capitalisme, même si bon, il y a quand même un certain nombre de textes qui commencent, mais c'est vrai que d'un autre côté, ça faisait un certain nombre d'années qu'il n'y avait pas eu ce ras-le-bol généralisé qui était exprimé de manière aussi franche, peut-être depuis la réforme des retraites de 2010, mais je sais pas, tu penses que le Toi qui as bien connu les mouvements de 2006 et de 2010, dans l'intensité actuelle de ce mouvement, de son niveau de radicalité, que ce soit dans la théorie ou dans la pratique, comment est-ce que tu le situerais, quoi?
Ouais, c'est difficile de créer des échelles. En plus, le mouvement dans lequel on est en ce moment est pas tout à fait fini, quand même, et il dure déjà depuis un bon moment. Enfin, depuis plus longtemps, en tout cas dans mon souvenir. Peut-être pas plus longtemps, parce que le CPE a duré très longtemps aussi, mais il y a un côté où il est quand même, enfin, il essaye de s'inscrire dans la durée. Alors, niveau de radicalité ou en termes quantitatifs, je sais pas du tout. Par contre, juste dans ce que tu disais avant, t'as comparé en termes de mai 68 et au mouvement des chômeurs de 1998. Alors, il y a une chose, moi, qui me semble vraiment très importante par rapport à mai 68, c'est qu'on a, alors c'est un peu une évidence de le dire, hein, mais bon, on a changé d'époque. Mais on a changé d'époque aussi, et c'est à ça que je voudrais arriver. Et c'est justement un des aspects de la théorie qu'on appelle théorie de la communisation, que d'essayer de mettre l'accent là-dessus. On a vraiment changé d'époque aussi dans la manière dont on envisage, parfois théoriquement, mais même et surtout la manière dont on ressent très quotidiennement les choses dans les rapports de classe. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il y a eu, dans les années 70-80, on le sait, une très forte crise du capital et une très forte restructuration. Et depuis cette période-là, c'est enclenché un mouvement très très fort. Et quand on parle de restructuration du capital, on parle vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est à la fois des transformations importantes sur le plan du welfare et de l'État, c'est des transformations très importantes en termes aussi d'appareils productifs et de démantèlement de gros appareils industriels, de grosses régions industrielles en Europe occidentale par exemple, et de leur transfert dans d'autres zones de production, comme on le sait, ce qu'on appelle la mondialisation, qui évidemment existe depuis bien avant les années 70, mais qui à chaque période prend une nouvelle forme. Et c'est aussi et surtout des structurations à l'intérieur des unités de production qui ont énormément changé, alors qu'on était encore jusqu'en années 70, souvent avec des unités de production assez importantes et des entreprises assez larges, avec beaucoup d'employés. On est arrivé à énormément de fragmentation maintenant, et on le sait par le biais de la sous-traitance, par toute une série de développement du travail précaire, du travail d'intérim, etc., à obtenir finalement qu'il y ait une multitude de statuts complètement différents dans les unités de production qui sont encore présentes en Europe occidentale, en France par exemple. Et aussi, bien entendu, ce qu'on appelle délocalisation, c'est-à-dire le fait qu'une bonne partie de l'appareil industriel a déménagé pour aller vers des zones où le salariat, où les salaires sont bien évidemment beaucoup moins élevés pour les capitalistes. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de production en Europe occidentale, et la désindustrialisation, c'est quand même très exagéré, mais ce mouvement-là, d'un autre côté, il est quand même globalement incontestable. Et donc ça a quand même produit quelque chose qui a des effets énormes à tout point de vue, mais surtout sur ce qu'on appelle, justement dans la théorie de la communisation, l'identité ouvrière, c'est-à-dire sur cette idée que, jusque dans les années 70, en gros, il existait effectivement une identité ouvrière relativement forte, forgée dans le cours du monde du capital, remontant au 19e siècle, qui existait à travers donc cette identification à la figure du prolétaire, qui existait aussi à travers les organisations syndicales, aussi limitantes soient-elles par plein de points de vue, elles ont quand même permis de faire exister pendant très longtemps cette notion donc de prolétariat comme une forme d'unité. Alors il a jamais été homogène, le prolétariat, ça c'est une évidence, il l'était pas à l'époque, mais au moins subjectivement, et quand je dis subjectivement, c'est pas genre chacun qui ressent les choses comme il veut, c'était quelque chose qui avait une réalité sociale. Subjectivement, il y avait bel et bien une identification ouvrière prolétarienne, et c'est ça qui a totalement disparu, qui a été vraiment balayé par cette restructuration des années 80, 90, etc. À tel point qu'un certain nombre de théories et de théoriciens vont abandonner la théorie des classes et penser que maintenant les classes sociales, mon Dieu, ça n'existe plus, que c'est l'être humain face au capitalisme ou on ne sait trop quoi. Alors là-dessus, la théorie de la communisation, elle reste tout à fait fermement convaincue de l'existence des classes, et ce, ne serait-ce que parce que à partir du moment où il y a achat de la force de travail, même si cet achat est global, et où il y a valeur et circulation de valeur et production de valeur, on voit pas comment il pourrait ne pas y avoir de classes, tout simplement. Mais ces classes n'existent plus de la même manière. Et donc ce long détour à partir des luttes actuelles, je l'ai pris juste pour dire que du coup, on est dans un contexte actuellement où à la fois le prolétariat existe au sens où structurellement dans le rapport même capitaliste, forcément il y a bel et bien de l'achat de la force de travail et de la production de valeur, et c'est incontestable. Mais d'un autre côté, il y a une disparition totale de cette identité ouvrière, et le fait même d'être un prolétaire, ou la conscience même d'être un prolétaire, disparaît, parce que, et c'est pas seulement une question de conscience, parce que dans la réalité même du processus de travail, dans la réalité même de la vie quotidienne, tout simplement, tout ce qui permettait à quelqu'un de s'identifier soi-même comme prolétaire, de se raccrocher en quelque sorte à cette vision-là de cette réalité, disparaît également, a disparu. Donc il y a maintenant effectivement un prolétariat ultra fragmenté qui ne se reconnaît pas lui-même, et pour lequel il est très difficile de se reconnaître lui-même comme prolétariat, même si ça peut exister évidemment encore, bien entendu, chez un certain nombre de gens, mais je veux dire, c'est beaucoup moins prégnant que ça pouvait l'être il y a 40 ans, par exemple. Et que du coup, et c'est peut-être l'aspect le plus intéressant, que du coup, le développement même du capitalisme à l'heure actuelle a tendance à mettre les prolétaires dans une situation assez impossible, c'est-à-dire à la fois d'être des prolétaires et en même temps de voir leur propre situation de prolétaire en quelque sorte apparemment remise en cause par le capitalisme lui-même et le processus même de production. Donc cette situation très bizarre fait qu'on est un prolétaire tout en n'ayant pas le sentiment d'être un prolétaire, tout en ayant une condition de prolétaire qui est elle-même d'une certaine manière à la fois réaffirmée et attaquée par le capital. Et du coup, voilà, ça fait une situation dans laquelle sa propre condition, sa condition personnelle de prolétaire apparaît presque comme étrangère à ce qu'on est soi-même. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus tendance, et c'est quelque chose qui est produit encore une fois par le rapport social, à voir sa situation sociale comme une espèce de situation étrangère, imposée par un système conçu dès lors comme une espèce de système un peu global, mais dont on ne ferait même pas partie, et qu'on a tendance à rejeter. C'est ça qui, à mon sens, explique aussi l'extraordinaire succès de toutes les théories alternatives, hein, tous les gens qui disent, voilà, on part à la campagne ou dans un squat, etc., et entre nous, on a des rapports qui ne sont pas des rapports capitalistes. C'est parce que, de plus en plus, le monde même du capital, le monde de la production, apparaît comme quelque chose de globalement étranger. Et pourtant, en tant que masse prolétarienne ultra fragmentée, mais finalement tout aussi dans une position un peu semblable par rapport justement à la production de valeur, on est bel et bien partie prenante de cette chose-là. Et donc dans les luttes, il y a quelque chose d'un peu contradictoire qui apparaît, qui est que la défense de la condition prolétarienne, d'une certaine manière, elle apparaît aussi comme une attaque de la condition prolétarienne. Enfin, une espèce de être soi-même un prolétaire, c'est ne plus pouvoir être un prolétaire. Donc du coup, on essaye de défendre sa position et en même temps, on se retrouve à attaquer sa position. Et c'est ce mouvement un peu contradictoire-là qui, à mon avis, est à rechercher dans les luttes et à voir tout ce qui, à un moment donné, n'est plus reconduction du rapport prolétariat capital, comme parce que rendu même difficile, voire impossible par les conditions même dans lesquelles le capitalisme existe, mais tout ce qui est attaque de cette position. Et je pense que cette frange radicale qui effectivement veut refuser la loi travail et son monde, elle exprime ça de cette manière-là, peut-être pas dans les termes que je viens de dire, évidemment, les termes théoriques que je viens d'utiliser, mais de manière beaucoup plus intuitive et directe, c'est-à-dire qu'effectivement on refuse tout ça comme si c'était quelque chose d'étranger, comme si c'était quelque chose, un ennemi à combattre. Alors ça prend, cet ennemi à combattre, il prend quand même une forme, il a une forme d'ailleurs, c'est pas seulement, il a une forme bien, bien visible et identifiable. Bon là, c'est les flics, c'est la police, c'est l'État et son appareil. Mais d'une certaine manière, en attaquant la police, les flics et l'État et son appareil, c'est évidemment autre chose qu'on attaque, ou qu'on veut attaquer. Alors après, est-ce que c'est une véritable attaque, ça, on pourra en discuter, mais en tout cas, ce qui est visé, c'est, je pense, la condition de prolétaire en général, vue comme quelque chose d'étranger, et le rapport social dans son ensemble.
Oui, effectivement, c'est ce que tu racontes dans Qu'est-ce que la communisation dans cycle numéro 1, qui est disponible sur Internet, et ceux qui ont du coup envie d'approfondir un peu cette partie-là, je leur recommande vivement de sa lecture. Et effectivement, la transformation des 40 dernières années, c'est peut-être que effectivement, il y a toujours des prolétaires au sens de Bruno Astérian, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'autre choix que de vendre leur force de travail et donc de vendre aussi leur surtravail qui va produire voilà de la survaleur et évidemment il y a toujours une classe capitaliste et ça je pense que c'est pas l'interprétation je pense pas que ce soit l'interprétation de la critique de la valeur en tout cas de nier le fait qu'effectivement il y a des capitalistes et des prolétaires. Après, ce qui effectivement est très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le fait que à la fois évidemment la fragmentation réelle de la classe prolétaire a induit comme effet que les gens ne se reconnaissent plus aujourd'hui massivement dans un sujet collectif qui serait le prolétariat. Et du coup, évidemment, ça implique surtout au niveau des luttes revendicatives une grosse faiblesse qu'on observe aujourd'hui. En mai 68, et en plus, il y a des conditions de crise objectives qui changent, mais je veux dire, avec aujourd'hui une situation de crise latente du capitalisme, de chômage massif et ce sujet collectif qui n'existe plus des individus fragmentés qui ont tous la même condition finalement de devoir vendre leur force de travail pour produire des marchandises, mais le processus de production en a de moins en moins besoin, donc c'est tout ce dont on a parlé au cours de plusieurs émissions précédentes. Elle produit des effets dissolvants pour la lutte, mais d'un autre côté, et ça c'est ce qui est intéressant dans la théorie de la communisation, c'est que alors que la plupart des mouvements d'extrême gauche ont plutôt tendance à se lamenter, à uniquement se lamenter sur le prolétariat, l'identité prolétarienne qui s'est dissoute. La communisation montre aussi que du coup, un des aspects positifs, malgré tout, c'est que cette identité de travailleur, cette identité collective de travailleurs qui était affirmée positivement jusqu'aux années 70, eh bien aujourd'hui elle est de plus en plus massivement au sein des mouvements sociaux rejetée. Et du coup, même si en termes d'unité, effectivement, comme tu expliques bien dans ton texte, qu'est-ce que la communisation auparavant, les réformistes et les révolutionnaires s'unissaient toute la classe prolétaire était unie pour faire avancer les choses dans le capitalisme, arracher des acquis sociaux, etc., etc. Aujourd'hui, il n'y a plus cette force unitaire, mais d'un autre côté, il y a cette force de disruption qui est le fait que chaque prolétaire peut du coup non plus revendiquer au nom du travail comme sujet collectif une part du gâteau plus ou moins importante du gâteau capitaliste, mais de potentiellement rejeter carrément les rapports sociaux capitalistes qui le deviennent de plus en plus étrangers, au moins dans la sphère de la production. Et ça, c'est effectivement, je pense, un des mérites de la communisation. Et du coup, ça ouvre aussi la potentialité sur autant le sujet de la classe prolétariat pouvait par le fait qu'il s'identifiait quand même très fortement au travail et donc au capitalisme, pouvait difficilement déboucher sur autre chose qu'une affirmation du travail, c'est ce que dit Postone dans Ton travail et domination sociale. Autant si les sujets au contraire rejettent cette condition qu'ils vivent comme étant une condition étrangère, celle de salarié, de travailleur, de chômeur, là il y a peut-être effectivement un potentiel pour un sujet qui chercherait non pas à affirmer le travail contre le capital, mais au contraire à rejeter sa condition de prolétaire et donc à rejeter le capitalisme.
Oui, alors j'ai juste précisé une chose à propos de l'article de cycle numéro 1, qu'est-ce que la communisation que tu cites, qui est un article que j'ai écrit, en effet, je voulais juste expliquer plutôt que cet article, bien que je l'ai signé personnellement et écrit tout seul dans les faits, cet article à la base avait été conçu comme une sorte d'article collectif, parce que pour expliquer un petit peu mieux ce que c'est que la colonisation. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'on, je parle de colonisation, et toi aussi depuis tout à l'heure, mais on n'a même pas dit en quelques mots de quoi il peut s'agir. Donc pour essayer de recadrer, mais juste le plus rapidement possible les choses, je voudrais juste expliquer que ce néologisme, donc la colonisation est née dans les années 70, qu'il a été utilisé par des gens comme Gilles Dauvé, par exemple, depuis assez longtemps. Qu'il est ensuite il a été repris et développé un petit peu donc par des divers groupes dont Théorie communiste un groupe donc de théoriques, et qu'ensuite au début des années 2000 il y a une première revue qui s'est appelée une revue internationale pour la communisation, qui s'appelait Meeting, à laquelle j'ai participé donc avec d'autres gens, et qui essayait de développer cette théorie là ensuite repris donc par une nouvelle revue qui s'appelait SIC, qui a connu un numéro en français et en anglais, et puis ensuite un numéro 2 uniquement en anglais, et maintenant qui n'existe plus vraiment. Et donc l'idée de la communisation, l'idée de base telle qu'elle est née dans les années 70, c'était d'affirmer que la production du communisme se faisait, la révolution d'une certaine manière se fait en dehors de toute période de transition. C'est vraiment cette idée d'immédiateté du communisme. C'est un moment où il y a une révolution. En fait, en gros, il n'y a pas, comme le pensent les marxistes orthodoxes, de type bolchevique, disons, trotskiste, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas un moment où l'État a été pris par le prolétariat, mais il fonctionne dans le sens de la révolution et ensuite il disparaît. Il n'y a pas ça. Il y a une espèce d'unité, du moment, en fait, où le communisme est produit, qui est celui aussi de la révolution elle-même. Et le communisme, de ce point de vue-là, est un processus. C'est à la fin un moyen et une fin de la lutte. C'est-à-dire que c'est pendant même que s'organise cette lutte, que la lutte révolutionnaire, que est produit le communisme en même temps. C'est-à-dire la manière de vivre sans État, sans argent, et sans rapport de classe et sans hiérarchie, tout en produisant quand même, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais oui. Voilà, c'est l'idée de la théorie de la communisation, c'est ça en fait, en gros. Donc cette théorie, elle est pas si facile que ça, enfin là je l'ai dit en quelques mots, mais c'est pas si facile que ça à expliquer ou expliciter. Et du coup ce texte, qu'est-ce que la communisation au départ, en créant cette nouvelle revue qui s'appelait SIC, on voulait, un certain nombre d'entre nous participant à la revue, voulait essayer de donner une vision, disons, un peu compréhensible, si possible, pour les lecteurs. Parce qu'il faut bien reconnaître que parmi les textes qui ont été écrits dans ce domaine, eh bien, il y en a un certain nombre qui ne sont pas d'un accès facile, voire qui sont d'un accès extrêmement difficile. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, c'est bien gentil d'écrire des choses auxquelles les gens ne comprennent rien, mais bon, si on veut quand même qu'ils nous lisent, il faudrait peut-être qu'on fasse un effort. Sauf que le problème, c'est que je me suis un peu retrouvé tout seul à écrire ce texte, et qui effectivement apparaît un peu comme un texte de vulgarisation, et c'est vrai que là, je vais devoir l'assumer comme tel. C'est-à-dire que moi, quand j'écris de la théorie, j'essaye d'écrire une théorie compréhensible. Et c'est le cas, par exemple, pour un bouquin comme Crise. Mais, à mes yeux, Crise, c'est pas un ouvrage de vulgarisation. C'est-à-dire que j'y développe des théories qui sont spécifiques qui me sont personnelles. Tandis qu'effectivement, dans Qu'est-ce que la communisation, j'ai essayé de résumer, de la manière la plus simple possible, un certain nombre d'éléments communs. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur la disparition de l'identité prolétarienne, par exemple, c'est quelque chose qui était commun dans Meeting et dans SIC, et qui est une réflexion qui a d'abord été menée dans le cadre de Théorie communiste, je veux dire ce groupe théorique donc dont j'ai déjà parlé, qui a aussi une revue que vous pouvez lire, qui a 24 numéros, et si vous avez un peu de temps devant vous et beaucoup de courage, vous trouverez ça extrêmement intéressant. Mais voilà, donc à un moment donné, il a aussi fallu faire quelque chose qui devait être plus compréhensible et qui, à mes yeux, a toujours été une introduction à la lecture, une lecture plus vaste, à des lectures plus vastes. Alors ça m'a aussi ensuite été reproché en me disant oui, mais alors dans cet article, tout ce qui est problématisé, tout ce qui est ceci, cela, ça y est pas, vraiment ça, pas du tout. Bon, ça c'est par des gens évidemment qui sont un peu puristes et qui ne supportent pas l'idée qu'on puisse à un moment essayer de dire des choses de manière un peu plus simple, mais juste parce que ça permet aux gens de commencer à lire ce genre de littérature aussi et de rentrer dans ce genre de discussion. Mais donc voilà, donc je le dis bien, c'est quelque chose, c'est un texte qui est à mon avis très intéressant et très utile, mais qui devrait pas suffire en tout cas pour avoir une idée de ce que c'est que la théorie de la communisation, qui devrait être une porte d'entrée. Voilà, ça c'est juste pour bien préciser les choses et pour rappeler ce que c'est que la théorie de la colonisation. Et sinon, effectivement, tu parlais d'un des aspects positifs de cette théorie, et du fait que les gauchistes traditionnels se lamentent de la disparition de l'identité ouvrière et en gros espèrent tous qu'un jour une conscience prolétarienne renaîtra et qui permettra une éventuelle révolution. Et tant que cette conscience ne renaît pas, on peut penser à rien, on peut espérer rien du tout. Oui, c'est exactement ça. Évidemment, je ne crois pas du tout qu'il y a une conscience prolétarienne telle qu'elle a pu exister à une certaine époque qui va renaître. Et c'est absurde d'espérer quoi que ce soit par rapport à ça. Et de même que rester sur des schémas, effectivement, qui sont les schémas des périodes antérieures, me semble pas très intéressant. Dans l'idée de la théorie telle qu'on l'a fait, la théorie communiste et révolutionnaire, il faut partir de la situation actuelle. Et effectivement, c'est quelque chose de très ambivalent, parce que c'est vrai que toutes les limites à l'inexistence de ce sujet collectif dont tu parles, ou à l'inexistence de cette idée de lien entre les différents prolétaires, ça empêche effectivement de faire un certain nombre de choses, on est bien d'accord. C'est concrètement aussi des éléments qui rendent les luttes très difficiles. Et puis la fragmentation du prolétariat, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement puissant maintenant. Je veux dire, si on y réfléchit une seconde, la définition donnée effectivement par Bruno Astarian, celle que tu as rappelée tout à l'heure, est juste, mais c'est tellement abstrait. Hein, ça renvoie à tellement de conditions extrêmement différentes et surtout vécues comme très différentes par les différents protagonistes, que de penser à une communauté, on va dire, de volonté ou même de reconnaissance mutuelle, est complètement impensable. Entre un prolétaire, un ouvrier véritablement, ou une ouvrière employée dans des maquiladoras ou employée dans les grands ateliers de l'Asie du Sud-Est ou en Chine, entre les différents types de prolétaires qu'on peut trouver en Europe occidentale et leur division énorme, division effectivement d'origine sociale, d'origine même entre ceux qui sont immigrés et ceux qui ne sont pas, division aussi entre hommes et femmes qui sont transversales, etc. On peut imaginer énormément de ces fragmentations qui empêchent cette vision commune. Et donc c'est vrai que nous qui partons de l'idée de comment penser une théorie révolutionnaire, comment penser la révolution maintenant, on se dit que bien entendu ça ne peut pas être par la recréation d'un sentiment commun. Ça peut être en revanche par quelque chose qui s'appuie sur une réalité sociale déjà là, c'est-à-dire le fait que le monde du capital apparaît de plus en plus comme un monde étranger à soi-même. Et donc que du coup, attaquer ce monde du capital apparaît pour beaucoup de gens comme attaquer quelque chose qui est extérieur. En réalité, bien sûr, on en fait tous partie. Et donc, c'est forcément attaquer sa propre condition. Et sa propre condition, elle est, même si c'est très abstrait, très général, celle de prolétaire. Quand on est, bien entendu, quand on fait partie du clan des dominés, évidemment, c'est-à-dire quand on n'est pas soi-même un gros capitaliste, ça va de soi. Mais donc, pour ceux qui se révoltent contre ce monde, qui sont vraiment en rupture avec ce monde et qui le contestent d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins d'intensité, finalement, contester un élément de ce monde, c'est, au bout du compte, d'une certaine manière aussi, contester sa propre fonction dans ce monde-là, et c'est ça qui, pour nous, est peut-être, effectivement, le levier auquel on peut penser, en tout cas, ou l'élément sur lequel on peut penser qu'une contestation radicale du monde est possible. Et c'est ça l'idée. Mais attention, il faut bien se dire que la théorie telle qu'on l'a fait, elle se pose la question, comment est-ce qu'on peut concevoir une révolution maintenant? Comment est-ce qu'on peut concevoir la production du communisme maintenant? Et donc on s'appuie sur les éléments tels qu'ils existent, mais il faudrait pas déduire du fait que maintenant les gens ne se reconnaissent plus comme prolétaires, une espèce de truc automatique comme quoi, du coup c'est cool, là ils vont faire la révolution. C'est pas du tout ce qu'on dit. Et là-dessus, il faut évidemment être clair, cette interprétation-là, elle serait d'un optimisme totalement effarant. Mais par contre, si on veut penser en termes de révolution communiste, à ce moment-là, il faut s'appuyer sur cette notion-là, me semble-t-il, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, être un prolétaire maintenant, c'est une réalité, mais c'est en même temps quelque chose qui devient presque contradictoire en lui-même dans sa forme d'existence sociale.
Oui, effectivement, quand tu dis le fait qu'auparavant les gens se reconnaissent plus ou moins automatiquement dans un sujet collectif du travail contre le sujet collectif capital, avait pour effet que les gens étaient automatiquement contre les capitalistes. Ils n'étaient pas contre le capitalisme, puisqu'ils affirmaient leur rôle dans le capitalisme, qui est celui de producteurs de marchandises. mais ils étaient plus ou moins automatiquement des mouvements extrêmement réformistes de la classe ouvrière jusque aux franges les plus radicales. Alors qu'effectivement aujourd'hui on pourrait se dire comme il y a plus cette classe collective du travail qui est vécue et qui existe dans les rapports sociaux avec une uniformité de contrat du travail, etc., etc. Et donc du coup, bon, chaque prolétaire entre guillemets, enfin chaque personne qui est obligée de vendre sa force de travail pour survivre ou alors de survivre avec les miettes que lui offre l'État capitaliste. Donc il vit sa condition, il vit le travail, etc., etc. Ou même le flicage de toutes les institutions dites sociales de l'État comme étrangères donc à rejeter. D'un autre côté, les individus rejettent une partie de cette espèce de capitalisme diffus, mais d'un autre côté, ils adhèrent aussi encore plus fortement à ce capitalisme diffus à travers la socialisation, ce que Debord appelle la socialisation spectaculaire, c'est-à-dire le fait que effectivement il peut vivre sa condition de producteur de marchandises comme de plus en plus étrangère, mais sa situation de consommateur de marchandises là est vécue de plus en plus la toute forme de culture qui était un petit peu autonome vis-à-vis de celle du capital a quasiment disparu à part effectivement dans un certain nombre de marges et comment est-ce que du coup au-delà donc de l'aspect positif comment est-ce que la communisation pense que peut émerger quand même de cet individu qui rejette sa condition de producteur de marchandises mais qui en même temps adhère plus ou moins complètement à sa condition de consommateur de marchandises. Comment est-ce que la communisation pense qu'un sujet révolutionnaire peut émerger, puisque c'est pas justement par la conscience de classe? Est-ce que c'est par des luttes? Évidemment, c'est par des luttes. Quel type de lutte? Est-ce que c'est par des apports théoriques? Comment est-ce que la communisation pense ça?
Alors le fait est que la communisation, c'est comme je l'ai dit, c'est un terme qui rassemble plusieurs courants de pensée. Finalement, c'est presque un champ théorique. Et ce qui est certain, c'est que la réponse à cette question est certainement pas unique au sein des théoriciens qui se réclament de la communisation. Il y a bien des manières de le penser. Et je vais essayer de pas caricaturer les positions en question, mais enfin, juste pour dire en quelques mots, il y a une tendance au sein des théoriciens donc qui traversent le champ de la communisation. Il y a une certaine tendance à avoir comme réponse à cette question qu'il n'y a pas de sujet révolutionnaire, que c'est pas ça en fait qui produit le communisme, que ce qui produit le communisme, c'est tout simplement le moment où la contradiction capital-travail arrive à un stade où elle se défait en quelque sorte de toutes ces sous ces présupposés qui sont les présupposés du capital, et c'est cette défaisance qui en même temps, cette espèce de bouillonnement de défaisance qui est production du communisme dans un moment qui est du coup tellement envisagé de manière tellement abstraite qu'on peut pas en dire grand chose, voire on peut rien en dire.
C'est une phase de crise très lourde, par exemple. Est-ce que tu penses à Bruno Astarian?
Alors pour le coup non, parce que justement Bruno Astarian c'est une personne qui va beaucoup plus loin dans la description de cet aspect-là. Je pensais beaucoup plus à théorie communiste, c'est-à-dire précisément ceux qui vont dire qu'on ne peut pas parler de manière explicite de ce moment-là, de ce moment où il y a une défaisance de tous les aspects de la contradiction capital-travail, et ils ont rajouté aussi la contradiction de genre. Donc, parce que c'est justement à un moment de telle décomposition de tout ce qui est les présupposés du capital que c'est un moment qu'on peut juste appréhender de manière très abstraite et très structurelle finalement, de manière très très théorique, dont on peut parler de manière très théorique parce que d'une certaine manière on peut le lire dans la structuration logique même du rapport social capitaliste actuel, mais on peut pas en dire grand chose de plus, et même en dire quelque chose de plus c'est tout de suite versé dans une espèce d'utopisme qui est très mal vu. À l'inverse, Bruno Astarian, avec sa notion, son idée d'activité de crise, pour lequel donc il fait une grosse différence finalement entre le cours commun de la lutte de classe et le moment où on passe à un autre stade qui est celui de l'activité de crise, et ensuite sa description des différentes du fonctionnement même d'une production sans productivité. Pour le coup, lui, il va le plus loin possible dans la description de ce moment-là. Donc, il est vraiment tout à fait dans un point de vue complètement différent. Et lui, la réponse donc tient plus effectivement à cette notion d'activité de crise. Mais donc là, je voudrais pas non plus trop développer sur ce que peuvent dire les uns ou les autres qui sont pas moi, autant théorique communiste que Bruno Astarnian. Mais c'était juste pour dire qu'il y a des positions par rapport à la question que tu as posée, qui sont des positions extrêmement différentes et extrêmement qui n'ont pas du tout une réponse commune sur la théorie de la communisation là-dessus. Et
du coup, quelle serait la tienne?
La mienne est une forme, j'allais dire, de dire qu'effectivement on peut pas répondre à la question, et ça là-dessus je suis entièrement d'accord avec ce point de vue-là. Il est impossible de décrire au fond le processus qui permet de passer des luttes actuelles à la révolution de manière, puisqu'on peut absolument pas deviner comment c'est possible. Et c'est vrai qu'effectivement ce qui nous permet d'en parler, c'est l'analyse actuelle d'un certain rapport de classe et le fait de voir dans ce rapport de classe cette défaisance de ce rapport, cette espèce d'écroulement de ce rapport, on peut le voir à travers l'analyse qu'on en fait. Et d'un autre côté, j'ai aussi le point de vue qu'on ne peut pas écarter en fait ce que fait Bruno Astarnian, c'est-à-dire d'en parler quand même. C'est-à-dire que j'ai cette position qui dit que d'une certaine manière on ne peut pas ne pas en parler, et d'une autre manière, on est obligé d'en parler. Alors, la solution à cette apparente contradiction consiste à en parler, tout en disant que c'est pas ça qui va se passer. Voilà, c'est ça ma solution.
Oui, c'est ça, c'est de faire une anticipation, mais qui se conçoit en tant que qu'anticipation imaginaire, quoi.
C'est-à-dire une anticipation qui se conçoit comme n'étant pas une anticipation, mais étant quelque chose qui nous parle non pas du futur, mais du présent. C'est un peu c'est ça l'idée, finalement, qui, moi, me semblerait le plus intéressant. C'est-à-dire, de pour parler, effectivement, du moment où on passe des luttes actuelles, et où on le disait, où il y a un rapport de classe, donc il y a quelque chose dans la lutte qui le reproduit et quelque chose dans la lutte qui potentiellement en tout cas le conteste ou le remet en cause. Et pour passer de ça, donc, qui est la situation actuelle, au communisme, donc à la communisation, la révolution, etc., eh bien, d'un côté, on ne peut pas dire ce à quoi ça ressemble et ce que c'est, et d'un autre côté, on ne peut pas non plus faire l'économie d'en parler. Donc l'idée, c'est d'en parler en disant, nous ne parlons pas du futur, nous parlons de ce que nous, à travers les luttes de classe actuelles, à travers la situation actuelle, de ce que nous posons comme étant un horizon communiste à travers ce moment-là. Donc c'est un horizon communiste qui, du coup, est une forme, effectivement, formellement, est une description du futur, mais en réalité ne nous parle que du présent, et ne nous parle que de nous dans les luttes au présent. Et par contre, effectivement, est nécessaire, y compris pour être dans les luttes au présent, en tant que personnes qui ne veulent pas seulement rester au niveau de ces luttes-là, mais qui ont aussi quand même qui partagent avec plein d'autres personnes radicales dont tu parlais tout à l'heure, qui partagent aussi la nécessité et l'envie de combattre ce monde dans son entièreté. Donc c'est un peu ça, un peu la forme de réponse que je pourrais donner à la question que tu poses.
D'accord. Et du coup, on conseillera à ceux que ça a pu intéresser de lire l'article « Activité de crise et communisation » qui est disponible sur le site de Bruno Astarnian, mais aussi sur Palimpsao, et dont on va d'ailleurs reparler pour une toute petite partie dans la deuxième partie de l'émission. J'aurais simplement voulu faire un petit point presque technique sur le fait que... le fait que Gilles Dauvet a écrit certains articles assez problématiques sur la question d'Auschwitz et du grand alibi, et que que du coup on recommanderait pas du tout ce genre de texte, mais peut-être que tu veux...
Oui, je vais pas parler à la place de Gilles Dauvet du tout, mais sur ce qui lui a été reproché en gros à l'époque. Alors, il faudra revenir sur toute l'histoire de l'ultra-gauche des années 70, qui a pour une grande partie, pas pour une grande partie, mais pour une partie d'entre elles, versé dans le négationnisme le les plus stupides, les forissonneries les plus absurdes, et en particulier Pierre Guillaume, et etc. Il faut quand même savoir que, enfin, moi je me suis un peu intéressé à la question à l'époque, puisqu'il y avait eu, à la fin des années 90, une attaque contre Gilles Dauvé, et une réponse qui avait été faite dans un texte qui s'appelle « Libertaire et ultra-gauche face au négationnisme », donc livre de la fin des années 90, et qui répond, je pense, aux attaques qui ont été portées contre Gilles Dauvé, et qui, moi, m'a convaincu, en tout cas, en termes de réponse. Donc, pour ce qui est du négationnisme de Gilles Dauvé, je pense aussi qu'on peut lire, parce que, alors, je ne me rappelle plus de quand ça date, ça, mais de 2007 ou 2008, il y a un texte également qui s'appelle « Le tout sur le tout », et où on pourra lire explicitement que Gilles Dauvé n'est pas négationniste. Enfin, je pense que si vous voulez lire ces textes, ou si tu veux les lire, tu le verras. Après, on lui a reproché d'avoir ouvert la porte, d'une certaine manière, au négationnisme, par les textes qu'il a pu écrire dans les années 70, et pour lesquels, d'ailleurs, il a, dans toujours ce texte, d'ailleurs, de première ligne, pour lequel il s'en est expliqué. Et
mais il coup, les a pas reniés.
Non, mais il n'a pas renié les textes qu'il a écrits, mais qui ne sont pas des textes négationnistes, hein, qui sont des textes à qui on a reproché d'avoir ouvert la porte au négationnisme, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, il faudrait faire quasiment une émission sur cette question-là pour rentrer dans les détails. Mais en fait, en gros, il y a eu effectivement une espèce de brèche ouverte à ce moment-là, au début des années 70, dans laquelle petit à petit une grande partie de l'ultra-gauche a fini par sombrer totalement, et dans lequel Dauvé, lui, par contre, n'est pas allé. Mais on a pu lui reprocher d'avoir participé au début de ces éléments-là, ou durant les années 70, peut-être pas seulement au début d'ailleurs, enfin en tout cas pendant les années 70 et la fin des années 70, à ce qui a ouvert cette brèche. Mais il a, en particulier sur le fait d'assimiler, de dire fascisme et capitalisme, c'est la même chose, etc. Il a dit, bon, là-dessus, j'ai effectivement parlé trop rapidement. Et donc, moi, je pense que les explications qu'il a amenées à ce moment-là sont tout à fait satisfaisantes, en ce qui me concerne.
D'accord. Bah après, il y a, du coup, on pourrait aller en complément de ce que tu cites, un point de vue sur les amis de Némésis qui revient un peu sur cette controverse. Bon, pour en revenir à notre sujet, on va faire une pause musicale avant d'aller sur la question des pistes qu'offre Bruno Astarian dans l'activité de crise et communisation et voilà.
Oui. Attends, avant, j'aimerais te poser une question. Pour qu'il y ait communisation, il faut déjà qu'il y ait naissance d'un besoin de communauté. Et j'ai l'impression que République, par exemple, des mouvements des places, expriment un peu ce besoin de refaire communauté. Et au-delà, évidemment, refaire communauté pour un dépassement du capitalisme. Mais j'ai pas bien saisi comment tu articules les deux. Parce que si on pense aux expériences zapatistes, la communauté, d'emblée, elle est là. Et les gens ne sont pas atomisés, et le mouvement zapatiste s'est saisi finalement de ces conditions préexistantes pour pouvoir aller au-delà et s'autonomiser relativement vis-à-vis du système capitaliste, relativement, j'entends bien. Par contre, aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, tu le disais toi-même, complètement atomisée, où les gens ne se reconnaissent plus, sauf en extériorité, au capitalisme, enfin au lien social ou à l'absence de lien social, ils se reconnaissent dans l'absence de lien social. Comment est-ce qu'on on valorise ce besoin de communauté vers une démarche révolutionnaire, quoi, de bouleversement? Parce que en même temps, j'ai pas bien compris non plus ta critique. Est-ce que tu pointes les limites ou est-ce que tu critiques les mouvements communautaires? Mais alors, les petits mouvements communautaires, c'est-à-dire le besoin de refaire des petites communautés, tu parles des squats également. Comment tu les analyses? C'est-à-dire comme un repli, comme une forme de repli, comme une forme d'abandon de la lutte, ou est-ce que ça peut pas être en germe des moyens de retrouver la communisation à petite échelle, et qui serait un peu des bases arrières pour aller plus loin? Là, j'ai pas vraiment compris ta critique, là, ou si c'est simplement que tu pointes les limites objectives de ce genre de mouvement.
Oui, je vais peut-être préciser effectivement les choses. Alors, je critique pas ni les expériences communautaires à échelle réduite, ni l'existence, ni le fait de vivre en squat, où j'ai moi-même vécu 10 ans en squat. Donc, c'est pas le, non, c'est pas. Je critique pas du tout le fait que les gens le fassent et n'aient envie de le faire. Je critique pas non plus l'idée que ça puisse correspondre à un besoin, une envie, etc. Ça, il y a aucun souci. Non, par contre, la critique que je fais effectivement, elle est, comme tu dis, elle consiste à pointer les limites. La critique, elle est surtout sur la position théorique qui consiste à voir ces moments-là comme des moments de rupture avec le monde du capital. Et d'ailleurs, je trouve que la manière dont tu as posé la question est assez symptomatique et révèle, à mon avis, justement, ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le monde du capital apparaît comme un monde étranger à soi-même. On a l'impression, effectivement, que c'est un sentiment très très répandu, qu'il n'y a plus de lien social, que chacun est un individu atomisé, individualisé, etc. Et que, bon, par contre, dans les expériences zapatistes, où il existe encore des formes communautaires pré-capitalistes qui sont très vivantes et très fortes, on peut s'appuyer sur ces formes communautaires-là qui existent, mais que ici, là, dans le monde du capital, ce lien social n'existerait plus. Alors, en réalité, c'est une pure illusion. L'être humain est tellement social qu'il n'existe pas en dehors de sa société. Et l'individualisme capitaliste est une forme de société et de lien social. Et d'ailleurs, l'individualisme, ça veut rien dire. C'est une alors je vais pas dire une illusion parce que c'est aller trop loin dans ce genre de manière de poser les choses, mais c'est vraiment une manière de vivre les choses qui est produite par un certain état du rapport social. Et donc même quelqu'un qui alors c'est très très triste, hein, de se retrouver tout seul chez soi, de pas avoir d'amis juste son taf, son métro, etc. Et pourtant cette personne là aussi isolée qu'elle paraisse, elle n'est pas du tout isolée. Elle est dans un processus social réel qui lui permet de vivre, qui est, même si elle touche un salaire ou même si elle touche les minima sociaux, etc., qui est ce qui, en fait, concrètement l'a fait exister. Et elle est entourée de gens, alors que les gens ne se parlent pas, c'est sûr que ça fait partie de l'aliénation capitaliste la plus épouvantable, mais c'est pas une absence de lien, bizarrement. C'est bel et bien une forme de rapport social. Une forme de rapport social horrible, mais une forme de rapport social. Et du coup, le besoin de communauté, il existe et il traverse, c'est bien évident, tout le monde, mais il est simplement mal rempli, si on veut le dire comme ça, en ces termes-là, ou rempli de manière ultra insatisfaisante par le capital, rempli de manière aliénante et donc effectivement engendrant énormément de souffrance et de tout ce qu'on veut, mais il existe. Et donc il ne s'agit pas de remplacer une absence de lien social par un lien social ou un rapport social, il s'agit de changer de rapport social, c'est-à-dire de modifier un rapport social qui effectivement est un rapport social mais crée cette souffrance et cette aliénation dont je viens de parler, par un autre rapport social qui n'a pas besoin de plus de communauté qu'il en existe déjà, mais il a besoin d'une autre communauté, ou on pourrait dire, si on veut, mais ça serait mettre peut-être trop de moralisme là-dedans, une vraie communauté, mais bon, enfin en tout cas une communauté qui soit pas une communauté pleine de souffrance comme celle qu'on connaît. Mais même la personne qui vit dans une ville et qui parle à très peu de gens et qui a très peu d'amis et qui, etc., etc., est une personne qui vit dans le rapport social capitaliste.
Bon, eh ben, on va faire une pause musicale.
Alright, you three, just hold it where you are right now. Stay there, put your hands up against the wall fence, watch them. Hold on over there, you. You with the black long hair, get over there, get against that wall. You over there, watch where you're going. Any of you guys tries to run away, you're gonna get plugged. Now stay where you are, this is just a routine investigation. We're looking for concealed weapons. Any of you guys got any narcotics, anything you want to say you have before I look for it now. Because if you say you don't have it before I have it and I find it on you, then I'm gonna have to charge you with something. So you better not be resisting arrest. Fed, call the station. Looks like we got some narcos. We got some real long hair hippie freaks over here. Well, I want to see these kids shot. You know, I'd like to see these kids just taken out in some desert place with a machine gun. This is what's ruining America, you know. You drive around with a flag on top of your car. You try to make this place a community where people can live together. And what do you get? These long-haired, filthy hippie punks smoking their dope cigarettes, going around using obscenities, man. They're worse than pigs.
Oink, oink. Oink, oink. Oink, 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 oink. Oink, oink. Oink, oink. Oink, 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 oink. Oink, oink. Oink, oink. Oink, 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 oink. This little pig called a flunky. This little pig never stowed. This little pig went home to eat his meat. This little
little pig never home. Going to vote myself a joint. Everybody gonna get my point. When you see a cop, you got to say oink oink. Oink oink, 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 oink oink. Shiny silver badge and a shooting rod. He likes it, but that anyone who doesn't like his job. Living in a pig pen, working on the street. He is called the city finest ham you want to meet. Smelling out a stupid pig, doesn't think a brain too big. Knocks cops in the park, not to bury it. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, oink. Oink, 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 oink.
I am called a big bear wolf, I want to eat the pig. I am just as tough as he, his ways I just don't dig. Always shouting, always fighting, where is Billy Club? I am just a fairy tale, I do not have to run. One that a heart fighting a pig can really blow your mind.
Oink, 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 oink. The chimps all happy harm. Get him smoking, get him joking, keep him in the sty. We want to change the pig today, we want to get him hard. A cop is not a human being, he is not a groovy thing. Let's change the cops into something that is clean. Oink, 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 oink.
Voilà, donc c'était David Peel and the Lower East Side, Hong Kong. Un petit morceau en hommage à nos amis les bêtes, là, qui ont la matraque facile en ce moment. Allez,
hop. Et donc, on est toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans l'émission Sortir du capitalisme, avec notre invité, Léon de Matisse. Justement, pour continuer à parler de la communisation, Bruno Astarian offre dans Activité de crise et communisation quelques pistes. Alors lui, effectivement, à chaque fois, il se mouille. Voilà, c'est sa caractéristique, sa particularité dans la communisation. Il se mouille au sujet de ce que serait que l'abolition du travail marchandise et le dépassement émancipateur du capitalisme. Alors évidemment, il faut concevoir cette abolition, ce dépassement du travail marchandise, non pas comme un état utopique et uchronique qui arriverait à la fin des temps, mais comme un rapport social qui s'instaure dès la lutte insurrectionnelle. Et c'est d'ailleurs la particularité de la communisation, il y a pas de transition, et les nouveaux rapports sociaux sont créés dans et à travers la lutte qui elle-même ne fait qu'un, en fait, avec ses nouveaux rapports sociaux. Et donc Bruno Astarian parle dans son article d'activité de crise et communisation d'une forme de socialisation des hommes où la production intervient mais sans mesure du temps, et donc du coup potentiellement sans rémunération en fonction d'un temps de travail, que ce soit en 36-37 en Catalogne avec des bons familiaux, que ce soit en URSS avec ou que ce soit dans le capitalisme actuel sous forme de salaire. Le produit envisagé, de plus, sera particulier, et non pas donc pour un marché global, pour une demande globale, abstraite et séparée, au particulier au sens où il répond à un besoin exprimé personnellement par les producteurs directs du moment ou par d'autres, et que la satisfaction de ce besoin n'est pas séparée de l'acte productif lui-même. Voilà, c'est donc il n'y a pas de séparation entre d'une part une production et d'autre part une consommation. Le producteur ne laisse pas ses besoins au vestiaire. Dans son activité productrice, entre guillemets, il inclut ses choix, sa personnalité et la satisfaction de ses besoins. Fin de la citation. Le dépassement émancipateur du travail marchandise impliquerait également une mise en application sans transition du coup du principe du communisme libertaire et même que qui était déjà celui de Marx, de chacun selon ses forces et ses envies, ajouterions-nous peut-être, à chacun selon ses besoins, où l'ensemble des membres de communes selon différentes modalités satisferaient collectivement leurs besoins qui seraient préalablement collectivement définis et avec une répartition qui serait collectivement contrôlée et en fonction des besoins de chaque personne. Et on en parlera plus en détail lors de notre prochaine émission où on parlera de l'application du communisme libertaire dans les communes d'Aragon et de Catalogne. Alors je sais, Léon, que tu n'es pas très favorable à ce genre d'anticipation, même si bon, elles ont connu un début d'ébauche en 1936-1937 dans pas mal de communes d'Aragon. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler, alors là, peut-être en partant justement du présent, à quoi est-ce que pourrait ressembler un processus insurrectionnel de dépassement du capitalisme à partir des conditions présentes en France, même à partir de ce mouvement, pourquoi pas, et qui ne reproduirait pas les erreurs entre guillemets des révolutions de Portugal de 74-75 et d'Argentine de 2001, pour donner deux exemples qui ont été analysés par la communisation ou par l'ultra-gauche, ce que les insurgés ont fait, c'est reprendre l'appareil de production pour produire des marchandises, et ce qui a posé du coup à un moment les marchandises ne s'écoulent plus, et voilà, ça a été un échec.
Alors, ce que je disais dans la première partie de l'émission, c'est que cette question-là, on ne peut pas ne pas se la poser et on peut pas y répondre. Donc il faut faire avec. Avec une petite précision préalable. Donc, la théorie, dans ma manière de l'envisager, n'est jamais prescriptive. C'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Éventuellement, elle peut nous dire ce qu'il faut pas faire, parfois. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle peut pas nous dire ce qu'il faut faire. Elle est pas prescriptive parce que la théorie, finalement, la théorie communiste, la théorie critique, c'est, comme disait Debord, une arme dans la guerre du temps. C'est pas un plan stratégique d'invention d'une nouvelle société, parce que aucun individu ou même groupe d'individus, aussi géniaux soit-il, ne peut inventer un rapport social. Un rapport social, ça se produit. Et ça se produit collectivement, par définition. Donc c'est quelque chose qui se fait. Et donc la théorie, elle répond pas à la question « que faut-il faire ?», elle ne nous dit pas « que faire ?», elle nous répond à la question « qu'est-ce qu'on fait ?» C'est-à-dire, dans quoi est-ce qu'on est pris quand on lutte ? Qu'est-ce qu'on fait quand on lutte, bien sûr. Donc quand je dis le « on », c'est un « on » très général, c'est pas évidemment uniquement le théoricien, qu'est-ce qu'il fait lui, c'est qu'est-ce que les gens qui sont en lutte, et en particulier les gens évidemment qui ont une certaine radicalité dans cette lutte, quelle que soit la forme de cette radicalité par ailleurs, qu'est-ce que ces gens-là font ? Quel est le sens de ce qu'ils font ? Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ça se passe comme ça, etc. C'est ça la vraie question que pose la théorie. Et du coup, dans cette question-là, il y a aussi le fait de savoir à quoi ça peut ressembler, un monde qui n'est plus le monde du capital, tout en ayant en tête ce fait qu'on ne peut pas répondre à cette question, puisque ça serait faire le contraire de ce que peut faire la théorie, ça serait commencer à être prescripteur, ça serait commencer à dire voilà ce qu'il faut faire, ça serait commencer à avoir un plan, à avoir une idée, une direction à indiquer, voire à imposer aux gens qui sont en lutte. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Mais en même temps, évidemment, on peut pas non plus ignorer cette question-là et dire simplement bon bah écoutez, il se fera ce qui se fera, puis on verra bien. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu insatisfaisant, Et ça paraît même être une forme, on va le dire, de dérobade, hein, en réalité, un peu facile, hein, en disant, ben voilà, le capitalisme, il est comme ci et comme ça, et de toute façon, il y a des luttes, et puis, ben, à un moment ou un autre, il va s'effondrer, et on verra bien ce qui va se passer. Non, on a besoin, y compris maintenant, pour être dans ces luttes, et y compris pour comprendre ce qu'on y fait, en réalité, et pour comprendre le monde du capital et son fonctionnement, on a aussi besoin d'avoir une espèce de vision de ce que c'est que la critique de ce monde. Parce que c'est la vision de la critique de ce monde qui est aussi la vision de ce qu'on est dans les luttes et de comment on y est. Je pense que c'est ça qui est un peu essentiel. Et c'est pour ça, je crois que, et je voulais revenir sur le fait que tu disais, quand tu as dit dans ta présentation, tu n'es pas tout à fait d'accord avec cette manière de faire en parlant donc des développements de Bruno Astarian sur la production sans productivité. Eh bien, si, en fait, je suis assez d'accord avec cette manière de faire. Simplement, il faut prendre énormément de précautions et dire attention, c'est pas ce qui va se passer, c'est pas une vision du futur, c'est simplement à partir de l'analyse qu'on fait des luttes aujourd'hui, la manière dont on peut envisager le communisme, dont on peut le penser. Mais ça va pas plus loin que ça, c'est une pensée de maintenant pour maintenant. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai tout à fait l'envie de réhabiliter l'utopie d'une certaine manière. L'utopie a été critiquée par Marx et Engels dans le manifeste. Hein. Ils ont dit, bon, ben voilà, il y a eu une période du socialisme utopique, c'était bien sympa, mais maintenant on passe à autre chose, beaucoup plus sérieux, c'est ce qu'on propose nous. Mais je crois que si on prend l'utopie effectivement comme n'étant pas un plan tout fait pour arriver au monde idéal, mais simplement comme la projection imaginaire et assumée comme telle, effectivement de ce qu'on est ou de ce qu'on essaye d'être dans les luttes actuelles, dans ce cas-là, ça peut avoir un intérêt. Et ça peut tout simplement montrer qu'effectivement, des choses comme la valeur, les hiérarchies, les rôles sociaux, etc., etc., ne sont pas des invariants historiques, sont des produits d'un certain état du capital, d'un certain état du rapport social, et que puisqu'ils sont des produits historiques, eh bien, ils sont aussi dépassables en tant que produits historiques, et autre chose peut exister. C'est simplement cette affirmation logique-là qui, à mon avis, doit aussi prendre une forme parfois un peu charnelle, en quelque sorte, un peu visible, un peu palpable, mais avec beaucoup de précautions, et en particulier cette précaution essentielle de dire attention, on va vous décrire quelque chose qui n'arrivera pas. Voilà.
Oui, c'est plus le développement d'un imaginaire plutôt que qu'une idéologie prescriptive avec un programme pour y arriver.
Mais c'est aussi un imaginaire logique, c'est-à-dire ça c'est une réflexion qui avait été faite déjà de toute façon de dire que d'une certaine manière par exemple en critiquant le capital, hein, critiquant la société du capital, il y a au moins en creux une affirmation positive de toute façon. Ben, c'est juste à un moment donné de faire apparaître cette affirmation positive, enfin plutôt de faire apparaître une image de cette affirmation positive, qui est simplement une image éphémère et transitoire, une image pour maintenant, une image sans doute achetée à la poubelle dans 20 ou 30 ans, si la révolution n'a pas eu lieu entre-temps, parce que les conditions ont fait que voilà, elle aura évolué, cette image. Mais, et puis même à l'heure actuelle, on pourrait sans doute en produire plusieurs et un peu différentes les unes des autres, voilà. Mais en tout cas, donc, une image qui est cette fonction-là, cette fonction de remplir, en quelque sorte, le creux de la critique du capital, et de la critique pas seulement purement théorique, mais aussi de la critique en acte du capital qui se fait par le biais de plein de choses qui sont effectivement ces pratiques plus ou moins radicales qu'on trouve dans les luttes. Et du coup, c'est un peu à ça que ça pourrait servir. Et de la même manière que cette utopie donc peut servir pour décrire un monde, disons, qui serait un monde communiste, je pense qu'il faut aussi faire la même chose avec la période de production du communisme lui-même, c'est-à-dire la période de la communisation, c'est-à-dire le moment où effectivement on sort de la lutte qui ne fait que reproduire le monde du capital et qui, bon, bah, tendanciellement, potentiellement, par certains de ses petits aspects, peut aussi le remettre en cause pour passer à une lutte qui réellement le met en cause. Et ça, comme on l'imaginait, comme on l'a pensé, c'est aussi une question, et c'est exactement comme pour finalement le monde du communisme achevé, si tant est que ce monde puisse exister, mais c'est exactement le même genre de question, c'est-à-dire là aussi, il faut, à partir des luttes actuelles et la manière dont les choses existent, essayer de projeter une image de ça. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire à travers donc le texte qui s'appelle « Les mesures communistes », qui était prévu donc pour cycle numéro 2. Cycle numéro 2 en français n'a jamais existé, donc le texte existe dans la revue en anglais, dans sa traduction anglaise, mais il n'existe pas dans une revue en français. Il a longtemps été disponible sur Internet, mais il se trouve que là, ça n'est plus possible ces jours-ci. Il y a eu le site SIC qui a cessé de fonctionner correctement, donc je vais le remettre sur le blog que j'ai, tout simplement, le blog de Léon de Matisse, ce texte-là, de manière à ce qu'il soit disponible. Et ce texte s'appelle « Les mesures communistes », et il essaye, en fait, de se poser la question. Alors, il essaye de poser plusieurs, enfin, d'apporter une forme de réponse possible, mais encore une fois, une image, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas ça qui va se passer nécessairement, mais c'est juste pour qu'on le voit que c'est possible de le penser logiquement, une image de la façon dont effectivement, d'une part, le communisme puisse être produit à la fois immédiatement et en même temps que ça puisse prendre un certain temps, ce qui déjà paraît un peu contradictoire, et d'autre part, le rapport aussi, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure qui est compliqué, le rapport aussi entre une forme, disons, de volonté ou de volontarisme, qui serait forcément exprimée par les acteurs d'un changement social, parce que les gens qui font des choses, ils ont toujours une manière de les penser, et en même temps, l'absence de plan global, l'absence de généralité du plan qui permet de changer, de passer d'un moment à l'autre, l'absence d'un sujet collectif, dont on a parlé tout à l'heure, qui serait une sorte de sujet collectif qui œuvrerait dans le sens du changement, et la nécessité de penser ce changement aussi comme une forme très structurelle, c'est-à-dire inscrite aussi dans le dépassement du logique du rapport social capitaliste. Donc c'est tous ces éléments-là auxquels j'ai pensé et auxquels j'ai voulu essayer de trouver une possibilité de réponse. Ce n'est pas la réponse, c'est la manière dont ça peut se penser. Ce n'est pas la même chose.
Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots
Oui, en quelques mots, du coup, l'idée, c'est... C'est pas moi qui ai inventé l'expression, ni même l'idée, d'ailleurs. C'est l'idée, c'est ce que j'ai appelé les mesures communistes. Et en précisant deux choses, c'est que ces mesures ne sont pas des mesures au sens... ce seraient des ordres ou des décisions qui seraient prises par une organisation. Et d'autre part, elles ne sont pas communistes au sens où ce n'est pas elles-mêmes qui peuvent leur donner leur qualité de communisme. Alors je vais m'expliquer, parce que comme ça paraît peut-être pas très clair. Donc d'une part, qu'est-ce que j'entends par mesure? Qu'est-ce qu'on peut entendre par mesure? Eh bien, je le dis quand même assez clairement dans ce texte, une mesure n'est absolument pas décision qui s'imposerait d'une manière ou d'une autre à d'autres gens que ceux qui ont décidé de le faire. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, je ne sais pas, une loi, une règle, un ordre, quelque chose qu'on dirait, bon bah maintenant, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Une mesure communiste, c'est pas ça. On pourrait dire... plutôt que mesure, on pourrait dire une initiative, par exemple. Mais je trouvais que la chose, ça devenait un peu compliqué de parler juste d'initiative. Mais en tout cas, voilà, un certain nombre de gens, un groupe de gens, plus ou moins important, ça peut être 2-3 personnes, ça peut être des centaines de personnes, ça peut être plein de gens, se mettent d'accord sur un objectif donné, déterminé. Quoi ? Bah, je sais pas. Par exemple, on est dans la lutte et on a l'intention de pouvoir se nourrir. Donc, on décide d'aller piller un supermarché ou prendre des choses, de cuisiner collectivement et de partager ça avec les gens qui l'ont fait et peut-être aussi d'autres gens qui sont intégrés dans la lutte. Voilà. Par exemple, ça, c'est on a un objectif, on a quelque chose à faire. Ça a un lien avec la lutte actuelle. J'imagine une insurrection, bien sûr, là en ce moment. Mais ça peut être plein d'autres choses, hein, juste pour donner un élément un peu simple. Et donc voilà, un certain nombre de gens décident de se mettre d'accord pour faire ça, pour faire en sorte que les gens qui sont en train de se battre contre le capitalisme et l'État puissent se nourrir ou trouver un refuge, ou etc., etc. Et on partage, ça c'est un élément essentiel bien sûr, parce qu'on peut tout de suite imaginer des formes pas du tout communistes de faire ce genre de truc, genre en gang, on s'empare d'un certain nombre de choses, puis on les garde pour nous, et on deal notre position de pouvoir avec ça. Donc on voit tout de suite qu'il y a plein de manières de faire ce genre de choses, et qu'il y en a qui sont communistes et d'autres qui ne le sont pas. Ça, là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le communisme ne nous dit pas ce qu'il faut faire, mais il nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et il est clair que s'approprier, dans le cadre d'une insurrection, s'approprier des moyens pour soi ou pour son gang ou pour sa petite bande, c'est absolument pas quelque chose de communiste, ça va de soi. Le communisme, bien évidemment, c'est le déplacement des rôles sociaux, c'est le partage entre ceux qui sont engagés dans la lutte contre le capital. Alors, ceci dit, voilà un exemple de mesure, mais donc mesure, c'est-à-dire c'est une décision prise par un certain nombre de gens qui vont ensemble donc avoir un objectif, faire la chose. Ils vont pas exister comme organisation au-delà de ce qu'ils ont l'intention de faire ensemble. Donc, par exemple, s'emparer à un moment donné. Ça peut être aussi de manière un peu plus, j'allais dire, sur le long terme que simplement aller piller un supermarché. Ça peut être s'emparer à un moment donné d'éléments qui étaient des éléments de production de l'ancien système capitaliste pour en faire quelque chose qui sera utile immédiatement à la lutte en cours. Exactement dans l'idée de la perspective donnée par Bruno Astarian dans le texte que tu as cité tout à l'heure, hein, c'est-à-dire un besoin qui est un besoin immédiat, qui est un besoin pour les gens qui se sont organisés pour le remplir, mais ça dans le cadre de la lutte, dans le cadre d'un moment où on n'est pas encore, j'allais dire, un système, hein, une forme d'organisation communiste généralisée, mais on est encore en train de se retrouver dans la lutte même contre le capital. Et donc cette forme-là, ce besoin-là, on se met collectivement, et là encore, ce collectivement peut être très nombreux ou pas très nombreux, ça dépend évidemment de ce qu'on fait, de l'objectif, du moment, de plein de choses. Et donc, on le remplit ensemble et on le partage. Donc une mesure communiste, on le voit, elle est d'abord et avant tout quelque chose qui est fait dans le cadre de la lutte contre le capital, dans le cadre de l'insurrection, dans le cadre aussi, alors que l'insurrection se généralise peut-être du moment où, ben, où on est obligé de faire vivre les gens, donc de recommencer à produire ce qui est nécessaire effectivement à la vie de tous les jours. Et alors, en quoi est-elle communiste? Eh bien, c'est là où justement c'est le côté un peu complexe de la chose. C'est qu'elle n'est pas communiste par elle-même, en fait. C'est-à-dire, c'est pas le fait d'avoir pris une mesure communiste ou quelques mesures communistes qui la rend communiste. C'est le moment où ce genre de mesure est prise de manière, j'allais dire, généralisée par un nombre de gens incalculables et qui le font pas forcément en coordination, enfin, qui vont se coordonner, mais qui le font pas forcément parce que les autres leur ont dit de le faire. Mais par contre, qui vont, et comme ça se fait déjà très souvent dans les luttes, qui va être une pratique qui va être reprise. C'est-à-dire qu'une pratique qui fonctionne, c'est aussi une pratique qui s'étend. Et parce que elle est inscrite à un moment donné dans l'état du rapport social, elle est inscrite à un moment donné dans les nécessités de la lutte qui se font jour, qui sont des nécessités qui dépassent aussi les volontés individuelles des uns et des autres, et qu'elle est une manière d'y répondre. Et elle est une manière d'y répondre communiste, au sens où, je l'ai dit, la théorie ça peut nous le montrer, il y a bien des manières clairement non communistes de faire ce genre de choses aussi. Et donc c'est entre ces deux, c'est là que joue la volonté, c'est-à-dire c'est là qu'effectivement les individus, les gens, les collectifs qui vont se retrouver dans ces collectifs et qui vont dire bon bah maintenant on va faire ça, et ben on va le faire comment, et ben là je veux dire il y aura ceux qui décideront de le faire effectivement sous la forme du partage et de l'abolition des hiérarchies, des dominations, de toutes les dominations qui existent, et c'est qu'ils soient aussi des dominations de race, de genre, etc., qui sont toutes évidemment existantes dans le monde du capital, même si à mon avis elles n'en sont pas définitoires, mais ça c'est encore un autre débat, mais qui sont existantes et bien réelles. Toutes ces dominations-là doivent être évidemment exclues. Si on le fait sur la base de la recréation d'une identité spécifique donnée, les ci contre les ça, les machins contre les trucs, c'est évidemment pas du communisme dans ce cas-là, c'est forcément dans une universalité et un partage. Universalité au sens où personne n'en est exclu d'emblée, sauf s'il prend position clairement dans la lutte pour la défense du monde du capital. Donc dans ce cas-là, sinon c'est un partage. Et donc à ce moment-là, effectivement, il y a des manières de faire qui seront certainement pas communistes et d'autres qui le seront certainement, même si la définition même de ce qui est communiste, eh ben, c'est aussi quelque chose qui se discute et qui se reposera sur la table, je pense, constamment. Et à ce moment-là, donc effectivement, si un certain nombre de gens qui sont dans la lutte prennent ce genre d'initiative à tel ou tel endroit et qu'ensuite ces initiatives se généralisent par d'autres gens qui reprennent la même manière de faire, etc. On a à la fois la volonté de quelques-uns à un moment donné dans la lutte et en même temps la réponse, j'allais dire, un petit peu structurelle, c'est-à-dire le fait que effectivement ces formes-là, à un moment donné, sont aussi les manières les plus, à la fois les plus logiques, peut-être même les plus efficaces et en tout cas les plus immédiatement partageables. Donc les plus immédiatement reproductibles de la forme de lutte et d'insurrection contre le monde du capital qui est en cours. Voilà, donc ça c'est vraiment une manière de poser les choses, de les penser. Encore une fois, c'est peut-être pas du tout comme ça que ça se passera, puisque en fait il s'agit pas de prévenir l'avenir, mais juste de montrer qu'on peut concilier cette idée de production du communisme, cette idée d'insurrection, cette idée de lutte contre le capital, cette idée de choses qui se passent à la fois dans le temps et qui en même temps est immédiat, cette idée aussi de choses qui est à la fois très décentralisée, très se fait un peu partout par plein de volontés complètement différentes et qui en même temps finit par exprimer d'un point de vue structurel quelque chose sur le changement même du rapport social en cours. Voilà, c'est un petit peu ça la manière d'essayer de poser les choses.
D'accord. Et donc du coup, pour en revenir et peut-être pour finir là-dessus sur les luttes actuelles, qu'est-ce qui dans les luttes actuelles pourrait être alors peut-être plutôt pourrait être des impasses si ces luttes vont plus loin qu'elles ne le vont actuellement, et qu'est-ce qui pourrait être des pistes exploratoires.
Alors autant le dire tout de suite, si quelqu'un pensait prendre une mesure communiste dans le mouvement actuel, alors d'abord ça poserait aucun problème, ça serait pas du tout gênant, mais juste la mesure ne serait certainement pas communiste, parce qu'elle ne peut prendre son caractère de mesure communiste que par sa généralisation, c'est-à-dire par le moment où plein d'autres gens le reprennent. Par contre, faire des choses qui effectivement dans les faits essayent d'être un peu en dehors de la reproduction stricte du rapport, ça c'est toujours intéressant. Sauf qu'il n'y a pas de définition possible en fait de quelque chose qui serait toujours en dehors d'une reproduction stricte du rapport, puisque ce rapport même il évolue tout le temps. Et une pratique qui à un moment donné a pu exprimer quelque chose qui effectivement était radicalement subversif, à un autre moment peut exprimer au contraire quelque chose qui ne l'est plus du tout. Il est bien évident que, par exemple, l'affrontement avec les flics, qui est tout à fait nécessaire et qui est fort agréable, hein, je remets pas du tout en cause à aucun moment. Mais je veux dire, il y a plein de manières de le faire. Et puis il y a une forme aussi, on le sait bien, très spectaculaire et très normée finalement. Hein. C'est vrai que quand on balance des trucs sur des mobiles qui sont suréquipés et qui ont leur grille devant eux, etc., on remet pas tant que ça en cause quelque chose qui finalement par contre, si à un moment donné on arrive à passer des barrages et à rentrer à des endroits où l'État a pas du tout envie qu'on rentre là du coup c'est autre chose. Voilà, donc la même chose en fait, suivant les contextes, suivant les moments, suivant les circonstances, elle est ou elle est pas dans le cadre de la reproduction du rapport du capital, la reproduction ordinaire, on va dire, sachant que la lutte donc exprime les deux. Et c'est pour ça qu'il y a pas vraiment de règles pour dire ça c'est ci ou ça c'est ça. Et soyons clairs aussi, quand on parle de pratique, c'est une pratique, c'est une manière de faire, une chose qui se fait, mais c'est aussi un discours porté par cette manière de faire, à la fois un discours des fois explicite, des fois implicite, et donc il peut y avoir, par rapport à certaines pratiques, plusieurs types de discours, plusieurs manières de le faire, plusieurs raisons pour lesquelles on le fait, plusieurs discours implicites ou explicites. Donc j'ai vraiment aucune recette pour dire ça c'est radical et ça l'est pas, parce que de toute façon c'est toujours un événement dans une situation par rapport à une totalité aussi, qu'il faut toujours garder en tête, c'est-à-dire un système total, un rapport social, c'est toujours ça qui est ou n'est pas dans le cadre d'un dépassement. Donc c'est toujours une analyse, en fait, dans les faits, concrètes, immédiates, etc. Et bien souvent, cette analyse, elle amène aussi à voir à la fois les deux aspects, c'est-à-dire quelque chose peut exister en étant à la fois une forme de remise en cause et à la fois une forme de reconduction. C'est là où, bien sûr, c'est toujours un petit peu complexe. C'est pas tranché comme ça. Par exemple, dans le mouvement actuel, je trouve assez positif et assez étonnant de voir que le discours sur les casseurs, etc., qui est tenu par le pouvoir, évidemment, par un certain nombre de, par les médias et tout ça, il prend pas tellement cette fois-ci, alors que on a vu dans le passé qu'il prenait beaucoup mieux. Et j'ai l'impression que il y a une forme d'affrontement avec la police et avec l'État qui paraît très légitime pour les gens qui sont impliqués dans le mouvement, encore une fois, et que ça n'a pas toujours été le cas. Et par exemple, ça, c'est un aspect qu'on pourrait trouver positif. Mais d'un autre côté, quand cette violence contre la police, enfin cet affrontement contre la police, qui est tout à fait légitime encore une fois, parce que la violence c'est d'abord la violence du rapport social et de l'État, mais donc quand cet affrontement avec la police ne se fait que d'une manière, j'allais dire, un peu normée, justement un peu répétitive, un peu dans un cadre très précis, il est aussi une limite. Donc voilà, ça c'est à la fois quelque chose d'intéressant et une limite. Et on voit bien que, en particulier s'il n'y a pas une forme de partage possible entre les émeutiers et les autres, s'il y a trop de spécialisation dans la fonction émeutière, on arrive à quelque chose qui sera peut-être apparemment plus efficace, mais en même temps peut-être moins intéressant. Donc c'est toutes ces choses-là, en fait, moi, auxquelles je pense. Je donne un exemple particulier, mais on pourrait multiplier cet exemple dans plein d'autres domaines.
Et Jean-Claude, justement, vous voulez faire une intervention ?
Oui, je vais pas faire de l'audimat, mais simplement, je voudrais savoir l'évolution, en fait. Est-ce que vous arrivez, est-ce que tu arrives, et les communisateurs arrivent à mesurer un peu l'évolution de leur audience, leur réception, et comment vous vous inscrivez très concrètement aujourd'hui dans les luttes diverses, par exemple, pour l'instant, les Nuits Debout, quoi. Est-ce que tu peux évaluer ça à peu près?
Alors, en fait, il y a un truc avec la théorie de la communisation, c'est qu'on va pas dans les luttes avec la casquette de communisateur du tout, parce que, encore une fois, ça n'est qu'une vision des choses. La théorie de la communisation, et c'est vrai que il y a pas de politique communisatrice. Enfin, je veux dire, être dans une lutte, c'est essayer de faire partie de cette lutte, et bien entendu, en allant dans le sens, si possible, qui, à nos yeux, remet le plus en cause ce monde, de la manière la plus radicale possible. Mais comme à chaque fois, c'est quelque chose de différent, c'est extrêmement difficile d'avoir une politique colonisatrice ou une stratégie colonisatrice. Je dirais même c'est quasiment une contradiction, en fait. Réellement, la colonisation, de ce point de vue-là, est un mouvement antipolitique. Et donc, puisque c'est le mouvement de la défaisance de tout ce qui fait les termes du rapport social tel qu'il existe actuellement. Et du coup, je pense que c'est assez important de voir que... et ça serait vraiment très bizarre de notre part... Enfin, de la part, je dis notre part, de la part de tous les gens, ils sont très divers encore une fois, qui sont dans la théorie de la colonisation, que de dire, bon ben voilà, maintenant ce qu'il faut faire c'est ci, ça, ça ou ça. Donc on y est dans ces luttes, sans dire spécialement qu'on est de la colonisation. Je pense que beaucoup de gens avec qui je fais beaucoup de choses depuis des semaines ne savent même pas que j'ai écrit Crise et que je m'appelle Léon de Matisse par ailleurs. Enfin, je veux dire, bon voilà, parce que c'est pas la question à un moment donné. Et donc du coup, l'audience de la colonisation, assez bizarrement, elle est arrivée dans des domaines, enfin, qui moi me semblent pas les plus intéressants, puisque par le biais en particulier des anglo-saxons, des textes en anglais, etc., ça a mordu un peu dans un milieu un peu intello radical qui bah voilà, qui est pas vraiment non plus ce qu'on a forcément envie de j'allais dire auquel on a d'abord envie de s'adresser, mais en même temps, faut pas non plus, enfin, se raconter des histoires. C'est évident que c'est aussi dans ce genre de milieu que d'abord ce genre de théorie peut arriver, et que moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'elle puisse en sortir aussi. C'est-à-dire, ça me gêne pas en réalité du tout que ça soit lu dans ces milieux-là, mais c'est vrai que l'idée, c'est que ça puisse aussi être autre chose, mais alors pas forcément du coup sous la forme théorique dure, j'allais dire un peu comme ça que ça peut avoir, que ça puisse aussi exister sous des formes autres, des manières de le dire autres peut-être, mais que un peu les idées en question puissent être brassées au-delà voilà. Et après, ça peut être des idées très simples. Je veux dire, le fait de décider de faire un truc, de le partager par exemple, de pas vouloir de représentant, de pas vouloir avoir de porte-parole, de pas vouloir qu'il y ait quelqu'un qui représente tout le monde, enfin des choses comme ça, c'est des idées aussi qui peuvent se répandre assez facilement au-delà d'un cercle purement théorique. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien surtout, c'est que le fait que ça puisse se relier à une possibilité de révolution, parce que c'est ça finalement qui manque le plus, je trouve, d'une manière générale, que cette idée-là puisse aussi sortir des cercles très théoriciens.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler.